بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à nos versets, c'est-à-dire le Coran, dit que la paix soit sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde, et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. Chers frères et sœurs en islam, toutes les louanges reviennent à Allah Rabbul Izzah, qui nous donne la possibilité de consacrer un peu de notre temps durant ce mois béni pour étudier ensemble un verset du Coran, et nous restons dans la sourate Al-An'am. Les autres années, durant le mois de Ramadan, quand on vivait des Ramadan, on va dire, ordinaires, des Ramadan normaux, on pourrait dire, et qui étaient en fait des Ramadan de bienfaits. C'est lorsque nous perdons ce bienfait que on se rend compte que aller à la masjid, faire la salat, tarawih, assister au programme, faire des programmes, recevoir du public, dialoguer avec les gens, prêcher, propager, faire la da'wah, ben, c'était là des ni'mas, des bienfaits inestimables. Et c'est quand Allah reprend un bienfait, espérons que ce soit mu'aqqat, que ce soit pour un laps de temps très court, mais quand Allah reprend un bienfait, c'est là que nantabih, c'est là que l'être humain réagit, réalise et se rend compte que ce qu'il avait et qu'il a perdu, c'était énorme et exceptionnel. Et à nous maintenant de demander pardon à notre Seigneur pour les manquements et notre ingratitude face à beaucoup de ni'mas, et qu'Allah ne nous prive pas longtemps de ses bienfaits à cause de notre mauvaise volonté, de nos mauvais comportements ou de notre ingratitude, et qu'Allah nous accorde de nouveau ses bienfaits avec encore plus de bienfaits, de ni'ma, incha'Allah. On disait donc que les autres mois de Ramadan ont privilégié un verset par lecture de Surat al-Tarawih. C'est-à-dire qu'on faisait un verset par juz, de par sipara, de façon générale. Donc là, comme c'est un contexte totalement différent, on s'est plutôt focalisé sur des couplets de versets qui, bi'idhnillah, tiraient notre attention et que on estime tous les versets doivent être expliqués et méritent notre attention, bien sûr, mais des versets qu'on estime être totalement adaptés à la période dans laquelle nous vivons, le confinement, et de façon plus globale, la période du mois béni de Ramadan. C'est pour ça que des fois, dans une même sourate, ça a été le cas d'An-Nisa et là de sourate Al-An'am, on reste deux ou trois jours dans une même sourate, dans un même chapitre. Le verset que nous avons lu aujourd'hui est en rapport avec le pardon divin. Et donc, le pardon divin, c'est vraiment le moment d'en parler de ce mois béni. Mais c'est un verset également qui rappelle quelles sont les bases de la da'wah. Lorsqu'une personne se présente à nous, lorsque nous devons parler de la religion à quelqu'un, lorsque nous constatons qu'un frère ou une sœur est dans l'erreur et que nous voulons les ramener, les inviter, prêcher, ramener vers Allah Azza wa Jal, ce qui est la da'wah ila Allah, et ce qui est bien sûr à la base le travail des anbiya, des prophètes, mais qui a été transmis à sa umma, et qu'il est donc du devoir de chaque savant, alim, en priorité, parce que ce sont les héritiers des prophètes, mais ensuite chaque personne qui reçoit un enseignement religieux doit être capable de le propager. Donc, quelle doit être notre position et notre façon d'agir avec notre prochain dans le cadre spirituel, lorsqu'on veut ramener quelqu'un vers Allah Azzawajal, comment le faire? Et comment le faire surtout selon l'ordre divin? Et ces versets rappellent l'importance de la bienveillance de la da'wah. Hier, nous parlions de la bienveillance dans l'éducation des enfants. Et on rappelait que l'éducation, at-tarbiya wa at-ta'lim, et l'enseignement, ben, ça découle de la da'wah, ça fait partie de l'invitation de façon générale vers Allah Azza wa Jal. Et là, nous voyons de ce verset encore de la bienveillance. Et nous nous resituons dans la sourate Al-An'am, qui est une sourate makkiya, une sourate qui a été révélée à Mecca, dans une situation où les gens commencent à s'intéresser à l'islam, les gens commencent à découvrir, à connaître l'islam et à se renseigner auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment accueillir ces gens. Et pour nous, le message maintenant que le prophète a reçu et qu'il nous a transmis, ça nous permet, nous, dans notre contexte, de savoir comment inviter, hein, comme on a dit en introduction, les gens vers Allah Azza wa Jal et sur quelle base. Parce que dans ce qu'on appelle les usloub asalib ad-da'wa, il y a parfois des erreurs d'approche. On peut avoir des personnes qui, pour eux, ils ont une conception de la religion qui est tellement cadré, qui est tellement concentré autour des ordres et des interdits, autour du halal et du haram, que si on voit une personne qui est hors cadre, qui n'est pas le cas du halal, du haram, du licite et de l'illicite, on va directement l'étiqueter pécheur endurci, égaré. Et on aura peut-être un regard et un jugement très dur sur cette personne, et cela va se percevoir dans notre façon de le regarder, de répondre à ses questions, et dans notre façon d'agir avec lui. Et si nous souhaitons l'inviter vers le droit chemin, parfois il peut y avoir des maladresses. On va plutôt se focaliser sur ses erreurs. D'accord ? Je donne un exemple très concret. Si je constate qu'un frère, je dis un frère parce que de nos jours, nos dames n'ont malheureusement presque pas accès à la masjid, qu'Allah ouvre les portes, qu'un jour nos sœurs puissent être un peu plus présentes à la masjid et profiter des rappels spirituels, c'est extrêmement important. Autant on avait rappelé hier qu'il est important d'être bienveillant envers nos enfants qui sont à la masjid, même si parfois il y a des petits dérapages de le comportement, il ne faut pas se focaliser sur leurs erreurs, mais réfléchir et penser que c'est la Ummah de demain. On doit les faire aimer la masjid. De la même façon, on aimerait qu'un jour, que nos sœurs puissent être un peu plus présentes et qu'à chaque dars, à chaque programme, les sœurs puissent écouter, puissent profiter, parce que se ressourcer spirituellement, c'est essentiel à notre époque pour chaque croyant et chaque croyante. Certes, il y a les réseaux sociaux, il y a les fichiers audio qu'on peut écouter, télécharger, mais il est important qu'il y ait un lieu de rassemblement où la rahma descend et où nos mères et nos sœurs puissent se ressourcer des assemblées de ta'lim. Il y en a déjà, mais il en faudrait plus. Qu'Allah nous guide tous vers l'imam fi khair, pour ce qu'il y ait mieux lil umma ou lil muslimin ou al muslimat, pour la umma de façon générale. On refait la parenthèse et on revient. Donc on donnerait un exemple précis, c'est ce qu'on voulait faire. Imaginez que je constate qu'un frère est éloigné totalement de la religion. Il ne vient pas à la mosquée, il a coupé les liens avec sa famille, ses parents, et on le voit souvent avec des dames, différentes personnes, hein, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, et on comprend très clairement que cette personne est dans le zina de l'adultère. J'ai envie de bien faire. J'aimerais que cette personne revienne dans la religion. Et là où je me corrige, j'aimerais que cette personne revienne vers Allah. Parce que si mon approche de la religion, c'est une approche obsessionnelle, et je pèse mes mots, que pour moi la pratique c'est le but de notre vie, mais à un tel point où je finis par dissocier ibtira'a wajhillah de l'accomplissement des bonnes actions et de l'éloignement des péchés. C'est un peu complexe, je détaille. C'est-à-dire que il y a des fois où notre approche de la religion est une approche, comme on a déjà dit, traditionnelle, mais également très rythmée. Je vais à la masjid, je prie, je lis mon Qur'an, je fais le dhikrullah. C'est comme si c'est devenu une routine et c'est devenu mon mode de fonctionnement. Et si j'ai un peu de connaissance, je réalise que ces actions nous mènent vers le paradis, nous permettent d'obtenir l'agrément d'Allah. Et si du coup, je constate que quelqu'un n'est pas dans cette routine spirituelle, ne fait pas ses actions régulièrement, je me permets de le regarder de haut et je le considère comme égaré et ainsi de suite. Et donc, je vais dénigrer cette personne. Donc, quand je souhaite qu'une personne fasse les actions que je fais moi-même au quotidien, mon but n'est pas qu'il devienne comme moi ou qu'il soit assidu aux actions. Il faut avoir une vision plus large. Mon but, c'est qu'il revienne vers Allah et qu'il se soumette à Allah et que chaque parole, chaque geste, sa vie, de façon générale, soit une vie conforme aux ordres d'Allah. C'est-à-dire la da'wa, c'est ad-da'watu ila Allah. Ou da'u ila sabili rabbik, invite vers le chemin de ton Seigneur. Ad-da'wa ila Allah, c'est l'invitation vers Allah. C'est-à-dire qu'on doit être extrêmement sincère et notre but, c'est que cette personne revienne vers Dieu et trouve l'amour d'Allah et trouve et comprend c'est quoi la crainte, la taqwa, la crainte d'Allah. Et de cette façon, cette personne va accomplir les actions que moi-même je fais et s'éloigner des péchés dont moi-même je m'éloigne. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit obsédé par ce que nous accomplissons et les péchés. Parce que si on va de ce sens, il est normal que la personne qui veut inviter vers le dîn, il va aller entre parenthèses, en clash frontal et dire à la personne, Salam alaikum, tu t'appelles comment? Toi, c'est Abdallah, mashallah, Abdallah de quelle famille? De telle famille. Mais Abdallah, comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que je ne te vois jamais à la mosquée? Déjà, on l'a attaqué. Et l'être humain n'aime pas les reproches. Ça fait partie de la nature de l'être humain que de ne pas aimer qu'on pénètre déjà dans sa sphère privée. Parce que le fait que je ne vienne pas à la masjid, le fait que j'ai une copine, ou que j'en change régulièrement, que je sois de zina, ou que je travaille de façon illicite, l'être humain, il est tout à fait normal qu'il considère que ça fait partie de sa vie, ce sont mes choix. Alors pourquoi est-ce que ce barbu, ce molissable, peu importe comment il s'appelle, tout d'un coup il vient, il pénètre dans mon intimité, dans ma sphère privée, et il commence à débiter des conseils. Il est qui lui? D'accord? Donc si je démarre ma prêche en ciblant ses manquements, il est normal qu'il y ait une réaction, on va dire, d'autodéfense de la personne. La personne va être irritée. Et la personne va dire que c'est en créole, ça ne garde pas où, c'est mon vie, à où qui ça voulait pour juger à moi, et ainsi de suite. Ça ne te regarde pas, c'est ma vie. Qui es-tu pour porter un jugement? Qui te dit que je ne suis pas de le droit chemin? Et qui a dit que tu es de le droit chemin? Et ainsi de suite. Donc, la da'wa, elle est terminée, elle est morte. Et même si mon objectif était sincère, je me suis très mal pris. Pour ça qu'au du'ula, sabidi rabbika bil hikma, l'invitation vers Allah doit se faire avec hikma. La hikma, c'est la sagesse. On invite vers l'amour d'Allah. Et on rappelle à cette personne pourquoi on a été créé. Et comment Allah nous a comblés de bienfaits. Et comment nous sommes redevables envers Allah. C'est-à-dire, fais en sorte que dans son cœur va naître l'amour et l'amour d'Allah en premier. Et non pas l'obligation des bonnes œuvres. Il ne faut pas lui dire que tu ne pries pas. Tu ne vas pas à la mosquée, tu ne sais pas qu'il est obligatoire de prier. Un musulman doit faire ses cinq salats. Mais ça, t'as appris à la madrasa quand tu étais petit, ça. Un musulman, il doit faire ses namaz. Un musulman, il doit pas faire. Ce sont des enseignements basiques qu'on a appris par cœur. Mais je veux dire qu'il faut donner un sens à cette action. Et l'action, c'est une wasila, comme on dit. C'est un intermédiaire pour obtenir l'agrément divin. Sachant que l'agrément d'Allah transite par ses bonnes œuvres. Mais ces bonnes œuvres ne sont pas les objectifs à atteindre. C'est un peu ambigu, un peu complexe. Mais je pense que le sens est compris. Le but, c'est que l'homme oriente son cœur vers Dieu, vers Allah. C'est la première chose. Et maintenant qu'il ait réalisé qu'il a un devoir envers Allah, qu'il a été créé par Allah et qu'Allah l'aime et qu'Allah attend qu'il revienne vers lui, maintenant, à nous de l'enseigner, quelles sont les actions qui vont te permettre de revenir vers Allah. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'il ne faut pas braquer, il faut pas se braquer contre les péchés d'un frère ou d'une sœur, parce que cela ne va faire rien d'autre que l'irriter et l'éloigner du dîn. Et on a raté la da'wa, et maintenant la personne aura une certaine irritabilité quand elle va voir n'importe quel prêcheur, n'importe quel alim, cheikh, moulissa, boufundi ou autre chose. Non. La da'wa, c'est inviter les gens vers Allah, vers l'amour d'Allah, la crainte d'Allah. Ensuite, les actions vont suivre. Allez, on revient au verset. On commence par As-Sa'di. Pourquoi est-ce qu'on commence souvent par As-Sa'di? Les gens peuvent se poser des questions. Pourquoi ne pas plutôt privilégier les grands mufassirin, ceux des générations avant, comme Ibn Kathir? Tout simplement parce que As-Sa'di, c'est un tafsir très facile. C'est pour ça que très souvent, on parle de As-Sa'di, c'est parce que c'est un tafsir qui est très simple à comprendre et qui est un peu comme tafsir al-Jalalayn, avec des commentaires synthétique et qui n'entre pas dans beaucoup de tafasir, d'explications, de divergences et de circonstances de révélation, et ainsi de suite. As-Sa'di, rahimahullah, explique Amarahu, c'est-à-dire Allah Rabbul Azza demande au Prophète sallam, et quand Allah demande au Prophète sallam, le message est pour toute la Ummah. Bimuqabalatihim bil ikrami wal i'azami wat والتبجيلي والاحترام. Allah Rabbul Izzah demande au prophète alayhi salat wa salam d'accueillir chaque croyant et chaque croyante qui se présente à lui, qui cogne à sa porte, de les accueillir avec bonté, gentillesse, largesse, ouverture d'esprit et respect. Et on avait dit hier, dans l'éducation, le respect est important. Le respect, respecter son enfant, respecter son élève, respecter ces personnes, c'est respecter leur dignité, montrer qu'ils comptent pour nous. Si mon enfant perçoit à travers mes paroles et ma façon d'agir que je compte beaucoup, qu'il compte beaucoup pour nous, il va comprendre que ce discours va dans le bon sens et je ne suis pas en train de dénigrer ou autre chose. Donc, à l'ihtiram, le respect est essentiel. Et qui dit respect dit bienveillance. Donc, il a déjà quel mot minun, si les croyants se présentent à toi, rahib bihim, accueille-les avec bonté, comme on a dit, avec bienveillance, wa salaman, wa tahiyatan, en faisant le salam, et ça c'est un point important, afshu salama baynakum, c'est un hadith connu, wa bashirhum bima yunashitu azaimuhum. Et cette parole-là, min rahmatillahi, cette parole-là, elle est en or. Je complète du coup. Min rahmatillahi wa si'ati judihi wa ihsanihi. Ibn Sa'di, Sa'di rahimahullah, comment ça veut dire que lorsque les croyants se présentent à toi, ô Muhammad, tu les accueilles avec bienveillance, tu leur transmets le salam. Et tu leur souhaites la bienvenue. Et wa bashirhum, bashirhum al-bishara. Et tu annonces à ces personnes la bonne nouvelle. Et tu leur tiens un discours qui va faire naître en eux l'espoir en Allah, l'amour d'Allah. Et ensuite, tu vas guider leur cœur et leurs actes vers les actions qui vont leur permettre justement d'obtenir cet agrément divin et de trouver l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on appelle At-Targhib. At-Targhib, c'est motiver les gens, les ramener vers le din en leur annonçant les bonnes nouvelles. Ce n'est pas uniquement les fada'il al-a'mal, en rappelant les récompenses pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire que pour cette personne qui ne prie pas, là on a déjà éliminé une première piste, ne pas reprocher pourquoi tu ne viens pas à la mosquée, ton père était assidu, ton oncle est hafiz al-Quran. Non, déjà, on ne sait pas quelle est sa relation avec sa famille. Peut-être qu'il a tourné le dos à la famille pour différentes raisons. Si on va ramener les vieux, j'allais dire entre guillemets les vieux démons, ou alors les gens qui ont un symbolisme qu'on ne peut pas comprendre, ben, il va se braquer deux fois plus. D'accord ? Donc, on a éliminé cette piste-là. Maintenant, ne pas seulement dire à la personne que ben, dommage que tu ne viens pas à la mosquée. Sache que celui qui accomplit une salat en congrégation a 25 ou 27 fois plus de récompenses. Certes, c'est une bonne chose. À Tadrib, motiver les gens à accomplir les bonnes œuvres en rappelant les récompenses, c'est une bonne chose. Mais avant de faire Tadrib concernant les récompenses et les vertus des bonnes œuvres, le premier Tadrib, c'est les ramener vers Allah. Le Tadrib vers la clémence et le pardon d'Allah, Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'il y a le verset « Kataba Rabbukum ala nafsihi rahma ». Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Donc, dire à ces gens que la paix soit sur vous, déjà une formule de bienveillance, et rappeler que Allah s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Donc, inviter les gens vers la rahmat d'Allah, leur rappeler qu'Allah est rahman, rahim, clément, miséricordieux, et qu'Allah attend que l'homme revienne vers lui. Mais avant d'aller vers Kataba Rabbukum ala nafsihi rahma, on continue le tafsir de As-Sa'di, donc, et guide ces gens vers toutes les actions qui vont les ramener vers Allah Azza wa Jal, mais également وَرَهِبْهُمْ مِنَ الْإِقَامَةِ عَلَى الذُّنُوبِ. Mais également, mets en garde, ô Muhammad, ces gens contre les actions qui provoquent la colère d'Allah. Donc ce n'est pas juste dire aux gens que bon, Allah est clément, miséricordieux, mais en même temps trouver le moment opportun pour rappeler que ben, notre Seigneur nous a créés, Allah attend de nous tel comportement, mais ne pas oublier que si on meurt dans des péchés, si on meurt sur le mauvais chemin, en étant dans différents ma'asi, en différentes désobéissances, mais Allah Rabbul Izzah a également mis en garde contre telle chose et telle chose. Et autant Allah est clément, miséricordieux, mais Allah peut également sévir et punir pour tel manquement, parce que ce sont là les règles qu'Allah a établies. Mais ça, il ne faut pas, on va dire, annoncer immédiatement, de crainte d'éloigner les gens de la da'wah, d'éloigner les gens du droit chemin. Donc, une synthèse entre targhib et tarhib, mais avec hikmah. Trouver le bon moment pour expliquer qu'il y a également des limites à ne pas dépasser, à ne pas franchir. Et Saadi continue: وَأْمُرْهُمْ بِالتَّوْبَةِ مِنَ الْمَعَاصِي لِيَنَالُوا مَغْفِرَةَ رَبِّهِمْ وَجُودِهِ. Et invite ces gens à demander pardon à Allah pour l'ensemble de leurs péchés, afin qu'ils obtiennent l'agrément et le pardon divin. Donc quand on a rappelé à ces personnes que l'amour d'Allah et la rahmat d'Allah et qu'il y a des limites, et dans la da'wah, rappeler que même s'il y a eu des erreurs de parcours, même si durant des années tu n'as pas eu l'occasion de faire telle bonne œuvre, ou pendant des années tu as été dans peut-être différentes formes de désobéissance, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, cela ne te condamne pas. Ce n'est pas parce qu'on a vécu 1 an, 2 ans, ou 20 ans, ou 50 ans dans le péché que nous sommes condamnés. Rappelez qu'à n'importe quel moment, on peut frapper à la porte de notre Seigneur et Allah ouvre en grand ses portes et Allah est au contraire heureux et content. Allah est content d'accueillir ce serviteur qui revient vers lui, et c'est le mois propice, le mois de Ramadan, pour faire le point sur sa vie et combler ses erreurs et prendre peut-être une autre orientation. C'est-à-dire qu'une approche qui est sage, une approche qui est bienveillante, qui est méthodique, c'est la méthodologie de la da'wah ilallah, et non pas une approche brusque qui répond à notre colère. Parce que des fois, on invite avec la colère. Des fois, on voit une personne qui est à la masjid, qui est en train de parler avec quelqu'un d'autre, et ça nous énerve. Parce que dans nos principes à nous, mais je veux bien dire à nous, hein, de nos principes à nous, parler de la masjid, c'est quelque chose d'inacceptable. Alors bien sûr, si on parle du dunya, l'endroit où les gens prient, c'est embêtant. Mais alors, parce que ça ne fait pas partie de nos des principes que nous avons validés, ben on va voir cette personne et lui dire qu'il ne faut pas faire attention, mais avec colère. La da'wah ne doit pas résulter d'une réaction propre à nous. Ce n'est pas parce que nous sommes irrités par le comportement de quelqu'un que nous allons prêcher. Non, nous le faisons pour Allah et non pas pour notre satisfaction. Ce qui veut dire également que si j'ai rappelé à cette personne les principes avec sagesse et que, en finalité, la personne ne revient pas vers Allah, je ne dois à aucun moment le détester. Parce que je ne dois pas prendre cette réaction, cette non-acceptation de ma prêche comme un refus de m'écouter. Non, je n'en fais pas une affaire personnelle. Parce que la da'wah n'est pas pour moi. C'est pas que si la personne revient, je suis satisfait. Non, je suis content parce que j'ai ramené quelqu'un vers Allah. Et s'il ne revient pas, je réalise qu'Allah n'a pas écrit pour lui la hidayah pour le moment. Et je vais redoubler les efforts, les du'as, les invocations pour qu'Allah guide son cœur et répéter les efforts envers cette personne. Et peut-être même des gestes de ikram, honorer la personne, agir de façon encore plus correcte, avec espoir qu'ils reviennent vers Allah. Ça, ikhwan fillah, on s'est peut-être un peu étendu sur cette façon de procéder, ce qu'on appelle, c'est toute une science, ça s'appelle le usul da'wah. Tout ça, c'était la façon d'agir des anbiya alayhi salat wa salam. Et l'excellence de la prêche, c'était notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a prêché, subhanallah, des adorateurs d'idoles, des personnes qui enterraient leurs filles vivantes, des personnes qui considéraient les femmes qui avaient leurs règles menstruelles comme étant des créatures impures et qui l'isolaient, des gens qui avaient des comportements ignobles, de la barbarie, et le prophète Sam est allé vers eux et les a ramenés vers Allah avec beaucoup d'amour, beaucoup d'estime et beaucoup de considération. N'oublions jamais le verset qu'on a cité avant-hier ou il y a quelques jours, lorsque Moussa alayhi salam reçoit l'ordre d'Allah d'aller prêcher Pharaon avec son frère Haroun, Allah Rabbul Izza leur demande faqula lahu qawla layyina, de leur adresser des paroles qui sont douces, c'est-à-dire de parler avec Pharaon avec sagesse et bienveillance, alors que Pharaon est le plus grand kafir de l'histoire de l'humanité. C'est le seul, ou alors un des seuls, qui a osé proclamer le Rububiyya, qui a osé dire que c'est lui le maître, c'est lui Dieu. Malgré ça, Allah Azza et qui a réduit à l'esclavage les Israélites. Malgré ça, Allah Rabbul Azza demande, explique la méthodologie à Moussa alayhi salam. Et c'était de cette façon que Nuh alayhi salam avait invité son peuple vers Allah et que notre prophète alayhi salatu wassalam l'avait fait également. Et nous devons nous imprégner de cette bienveillance prophétique quand nous voyons quelqu'un dans le mauvais chemin pour le ramener vers Al-Haq, vers le droit chemin. On continue avec le verset qui nous intéresse, mais subhanallah, encore plus, parce que ça concerne tout le monde. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma. As-Sa'di rappelle, fala buddha ma'a tarki dhunubi min islahi al-amal. Non, là il revient vers le verset de l'éloignement du péché. Il veut dire qu'en plus d'accomplir des bonnes actions, la personne ne doit jamais oublier que le cheminement vers Allah, c'était la suite de son tafsir, que le cheminement vers Allah ne pourra se faire uniquement avec l'amour de Dieu. Non, on ne vit pas d'amour d'Allah uniquement. On vit d'amour d'Allah qui se concrétise par les bonnes œuvres. Et le cheminement vers Allah ne se limite pas à l'amour d'Allah et les bonnes actions. Non, il faut avec ça l'abandon des péchés et le tawbah pour les erreurs que nous avons cumulées. Et c'est là la vraie façon d'inviter vers Allah et la vraie façon donc de revenir vers Allah Azza wa Jal. Wa ada'u ma awjab Allah, et donc s'acquitter de ce qu'Allah nous a demandé de faire et de réparer nos erreurs nous concernant, les erreurs concernant notre relation avec Allah. Si c'était un manquement dans l'aumône ou dans la prière ou dans le pèlerinage, ben l'accomplir et faire ce qu'on doit à notre Seigneur. Et si c'était un manquement en rapport avec les créatures d'Allah, réparer nos erreurs. Si nous devons de l'argent à quelqu'un, le rembourser. Si on a volé de l'argent, s'il y a eu un manquement dans l'héritage, s'il y a eu des torts qu'on a causés à notre prochain, on l'a insulté, on l'a humilié et ainsi de suite, demander pardon, réparer, rembourser et faire ce qu'on peut pour obtenir maintenant l'agrément de ces créatures qu'on a lésées pour ne pas, le jour de Qiyama, être parmi ceux qui sont rappelés au tribunal d'Allah par rapport à leurs erreurs concernant les droits des créatures. Voilà le manhaj ilahi, voilà ce qu'Allah attend de nous et voilà le mode de vie du croyant et du musulman. Et celui qui s'y conforme, il développe de son cœur l'amour pour Allah, il accomplit les bonnes actions qui lui permettent d'obtenir l'agrément d'Allah, il s'éloigne des péchés et arrête les péchés qui faisaient partie de son quotidien et demande pardon pour les erreurs cumulées, ben cette personne obtient l'agrément d'Allah, fa innahu ghafurur rahim, d'où le verset. Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. Ne pas oublier qu'Allah est clément, miséricordieux, accepte le retour de son serviteur vers lui à condition que ce retour se fait sous certaines conditions. Et je pense que ce sont des versets qu'on aura l'occasion de développer. Le Tawbatun Nasuha, regretter, arrêter le péché et faire l'intention de ne plus jamais recommencer, c'est-à-dire prendre des précautions pour ne plus recommencer ces mêmes péchés, d'accord ? Si c'est un homme qui sortait avec une femme, donc en concubinage, une relation d'adultère, la personne doit, un, prendre conscience que c'est là un péché grave, qui fait partie des kaba iridhunum, des péchés très graves. Deuxièmement, regretter ces moments d'égarement. Troisièmement, bien sûr, demander tawba Allah Azza wa Jal. Et quatrièmement, s'éloigner de ce péché et prendre toutes les précautions pour ne plus retomber vers ce péché. Si c'est, on garde l'exemple de l'adultère, si c'est l'adultère, soit se séparer, hein, c'est un peu cru de le dire, de cette personne, ou alors, idéalement, si on n'est pas marié et que la personne aussi n'est pas mariée, donc là c'est un peu plus simple à solutionner. Je disais quitter la personne si nous-mêmes on est marié et qu'on a trompé sa femme et qu'on était dans cette situation de péché, ou que c'est une femme mariée, na'oudh billah, là il faut arrêter, d'accord. Mais si il y a moyen de faire le nikah, de se marier avec cette personne, mais khayr wa ni'ma, c'est maintenant le mariage. Maintenant qu'une personne demande tawbah et pleure durant le mois béni, et pleure auprès du multazam, près de la porte de la Kaaba, ainsi de suite, et lors du Khouf Arafat, il pleure et demande pardon, et qu'à son retour du Hajj, ben, sa copine l'attend à l'aéroport de Roland-Garros, et immédiatement il saute de son cou, et bisous, et câlin, et wallah musta'an, hasbunallah wa ni'mal wakil, et que quand la personne demandait Tawbah Arafat, il avait déjà prévu que le telle date, il retrouve sa copine à l'aéroport. C'est un Tawbah qui ne va pas être accepté par Allah. Parce qu'il n'y avait pas de sincérité. La personne n'a pas fait l'intention ferme de s'éloigner de ce péché et d'arrêter totalement ce haram. Donc, une des trois ou des quatre conditions du Tawbatun Nasuha n'est pas réunie, c'est-à-dire Tarku Dhambi, le fait d'abandonner totalement le péché et de prendre ses dispositions pour ne plus revenir vers ce péché. Donc ça, c'est une des conditions pour que le retour vers Allah soit validé. Et l'autre condition, de façon plus globale, c'est une vision plus large de la religion, c'est développer dans son cœur l'amour d'Allah, accomplir les bonnes œuvres et arrêter les péchés, comme on a dit, et demander pardon pour les gens. Dans ce cas, Allah accepte cette personne et il est Ghafoor Rahim. Hada. Ibn Kathir, rahimahullah, dans cette première partie du verset, il dit que وَبَشِّرْهُمْ يَا مُحَمَّدْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ الْوَاسِعَةِ الشَّامِلَةِ لَهُمْ. Rappelle à ces personnes comment Allah est grand, comment Allah est pardonneur, comment Allah est clément, comment Allah est miséricordieux, comment Allah aime pardonner afin que ces personnes reviennent vers lui avec amour, envie et motivation. Ikhwani akhawati fillah, on rappelle ce qu'on avait dit dans l'éducation des enfants, il faut que l'enfant, l'élève et de façon générale le mad'ou, la personne qu'on invite et qui va pratiquer, le fasse avec conviction, avec amour, avec implication et présence de cœur. Si c'est par contrainte ou si c'est une routine, il n'y aura pas de conviction, il n'y aura pas vraiment de istiqama possible, de fermeté dans l'action qui est accomplie. D'où l'importance du tarib, et la meilleure des tarib, c'est ramener la personne vers la clémence divine, et que quand le cœur du mu'min s'imprègne de l'amour d'Allah, c'est là qu'automatiquement il voudra continuer dans le chemin qui va le mener vers le contentement et l'agrément divin. Hada. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah, parce qu'on ne peut pas bâcler ces versets qui sont très riches en sens. Et demain, on va expliquer, inshallah, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma, que votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et on va essayer de comprendre comment. Enfin, on ne pourra pas comprendre, mais essayer d'avoir une vision, une compréhension de la clémence d'Allah qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Et quand on parle de rahmat d'Allah, ben c'est également du pardon divin, parce que son pardon découle de sa clémence et ça nous permet d'avoir de voir l'humanité avec beaucoup plus d'amour. Ikhwan et khawat, il l'a très souvent, quand il y a des gens qui pratiquent, ils sont à fond dans la pratique, mais une pratique qui est héritée des parents ou héritée des professeurs, enseignée plutôt par les professeurs, et une pratique une pratique sans fondement, une pratique où on n'a pas compris ce qu'on faisait, et on n'a pas compris pourquoi je prie, et on n'a pas compris pour qui je prie. Si je n'arrive pas à intégrer pourquoi j'accomplis la bonne action, et pour qui je le fais, et pourquoi c'est important pour moi, et pour ma vie, et pour mon existence, qui est pour Allah, bah, ma vision de la religion, ma conception de la religion, même si j'ai la fermeté dans ma foi et dans mes bonnes œuvres, ça va être une conception qui sera toujours erronée, qui va être erronée. Et donc, quand je prêche, il y aura également ces manquements qui vont être transmis. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que la religion est une question d'amour. On pratique par amour pour Allah. J'adore mon Seigneur parce que je l'aime. Ainsi, quand je vais prêcher, je prêche avec amour et muhabba, et j'aurai une vision humaniste, une vision profondément humaine de ma société. Quand je vois quelqu'un de le péché, je n'aurai pas de dédain ou de dégoût à le voir dans l'adultère. D'accord ? Je n'aurai pas de dégoût à savoir que ah, telle personne a construit sa maison avec l'argent emprunté avec la banque. Non, je vais éprouver de la pitié pour cette personne qui est en train de causer sa perte à cause de ce péché, et je dois ressentir de l'amour pour cette personne qui est mon frère en islam ou ma sœur en islam, et je veux que cette personne soit mieux dans sa vie. Et que pour qu'elle soit mieux dans sa vie, il faut que sa relation avec Allah soit bien, soit correcte. Et je veux le meilleur pour lui, c'est-à-dire que sa vie correspond à l'attente d'Allah et que quand cette personne meurt, Allah soit satisfait de lui et qu'il obtient le Jannah, le paradis. C'est ça l'amour que nous devons avoir dans notre cœur pour l'humanité. Et je reviens vers un autre point qui a été abordé il y a quelques jours. La tenue vestimentaire. Et je vais parler d'une dame. Mashallah, on a une femme. Elle s'appelle, on va dire un nom, Fatima ou Aïcha. Elle s'habille, mashallah, correctement. Elle s'habille avec, mashallah, le maximum de pudeur qui est possible et qui est compatible avec, bien sûr, les règles de notre société. Maintenant, Fatima, lorsqu'elle voit une copine, une ancienne amie du lycée ou autre, dans la rue, qui, elle, ben, elle a suivi d'autres tendances et s'habille de façon très, voilà, très open, j'allais dire cool, mais c'est pas cool du tout, très open, sans limite, d'accord. Elle ne doit pas, Fatima, ne doit pas dénigrer cette demoiselle, ne doit pas dénigrer cette personne, et elle ne doit surtout pas se sentir supérieure. Elle, attention, parce qu'on a dit que la pudeur et les vêtements rapportent la pudeur, mashallah, si Allah te donne la possibilité de le mettre en pratique, remercie ton Seigneur. Mais sache que ça ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur aux autres. Dans ce domaine, tu as dépassé, on va dire un autre nom, mais bon, on va dire Ruqayya. Dans ce domaine, tu as dépassé Ruqayya, certes, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur à elle, parce que son vécu, son histoire, ses souffrances, ses blessures, tu ne les connais pas. Il y a des gens qui voient leurs péchés pardonnés au quotidien par Allah Azza wa Jal, parce qu'ils vivent des épreuves terribles. Qui te dit que cette Ruqayya n'a pas un problème de santé envahissant, qui est conséquent? Elle doit se rendre à l'hôpital régulièrement et ainsi de suite, qu'elle souffre régulièrement. Et peut-être que par cette souffrance, Allah a déjà pardonné ses péchés. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne qui a des épreuves ou autre chose, bah, du coup, elle n'a pas à se conformer à d'autres impératifs religieux, aucunement. On doit garder une vision globale de la religion, mais ne jamais que Fatima ne se sente jamais supérieure à Ruqayya, qui, elle, ne s'habille pas, on va dire, entre guillemets, correctement. D'accord? Et elle ne doit pas la détester non plus. Elle ne doit pas dénigrer cette personne. Au contraire, éprouver encore plus d'amour et de rahma pour elle. Et cette rahma va la mener vers cette Ruqayya pour gagner son cœur et lui montrer qu'est-ce qui serait beaucoup mieux pour toi, pour ton dunya et pour ton akhira. Ça, c'est l'essence de la da'wah, c'est l'amour pour son prochain. L'essence de la religion, c'est aimer son prochain. Si je déteste mon prochain, si je dénigre les pécheurs, si je les déteste pour leur personne ou par rapport à mon idéal de pratique, je suis totalement mon approche est totalement erronée et je sors du modèle prophétique. Et donc la da'wah n'est pas pour moi. Il est mieux de ne rien dire. Il est mieux de ne rien dire parce que je vais accomplir une action qui est l'héritage des prophètes et je vais la faire de façon totalement erronée. Je vais peut-être même éloigner cette personne du dîn. Donc ce qui est extrêmement important, ikhwan et khawati fillah, c'est si Allah nous a donné un peu de pratique, faire preuve d'humilité et de choukr. Remercie Allah qui me donne la possibilité de m'habiller correctement, de prier, de faire telle chose. Et ensuite, avoir l'amour pour ceux qui ne sont pas dans le même cheminement et désirer pour eux ce qu'Allah m'a donné, et donc les inviter vers l'amour d'Allah, qu'Allah remplisse nos cœurs d'amour pour notre prochain, et qu'Allah enlève de notre cœur la rouille, la haine, la jalousie, l'animosité, parfois même dans le domaine religieux, il y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a de la concurrence, tout ça, ça fait partie des wasawis, des shaitans, des insufflations du diable, et ça résulte également d'une approche erronée de la religion, soit par rapport à notre éducation, soit par rapport à un enseignement qui était mal dosé, mal ajusté, et c'est d'une façon générale un manque de connaissance de connaissance religieuse et une méconnaissance de ce qu'Allah attend de nous, qu'Allah guide nos cœurs, guide nos pas, guide nos paroles, unit nos cœurs et nous ramène vers le droit chemin. Et on continuera demain avec كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.